Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Cube Radio. Les rencontres de l'heure.
Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
La rencontre Barrette-Durocher.
Je pense qu'on est très nombreux, nombreuses à avoir eu un haut le cœur en regardant la une du Journal de Montréal, Journal de Québec ce matin avec un gros wash. C'est à ça que ça ressemble, la nourriture dans les CHSLD. C'est le sujet dont voulait nous parler Marie-Claude Barrette aujourd'hui. Bonjour Marie-Claude. Berk, arc, wash, dégueu.
Ben, ça... Mais bonjour d'abord.
Ah ben oui, bonjour.
Non, mais je veux dire, après tout ce qu'on a entendu sur les CHSLD, on a l'impression que on a enlevé les murs puis on a vu ce qui se passait en dedans, mais là, on voit ce qui se passe dans les assiettes. Puis, tu sais, Sophie, manger, on sait combien c'est important, là. Tu sais, c'est trois fois par jour. Et tu sais, mettons, dans un CHSLD, je pourrais m'attendre à ce qu'ils respectent le guide alimentaire canadien, à ce qu'il y a vraiment une préoccupation majeure parce que c'est des gens qui sont pas en santé. Donc, évidemment, la nourriture est encore plus importante pour être capable de récupérer, de se sentir mieux. Et là, ce qu'on comprend pour économiser, ils ont décentralisé, en fait, plutôt, ils ont centralisé, ils font plus la bouffe dans les CHSLD, c'est ailleurs et après, c'est redistribué dans les différents CHSLD. Donc, c'est de la bouffe qui est faite depuis des fois 2, 3, 4 jours. Ils disent, tu sais, on apprend même qu'on réchauffe des hot dogs.
Oui.
Je comprends même pas pourquoi ils mangent des hot dogs, mais en tout cas, ça, c'est une autre affaire. Tu sais, je pourrais croire une affaire spéciale, mais manger un hot dog réchauffé au micro-ondes.
C'est pas un repas, Marie-Claude.
Ben, non!
Je serais gênée d'offrir ça à mon enfant qui est en pleine croissance, des hot-dogs réchauffés, des gens qui sont, tu sais, des gens qui ont contribué à la société, qui se retrouvent dans une situation où ils ont un problème de santé et où ils habitent sur le long terme, où c'est un milieu de vie, puis on leur sert des hot-dogs réchauffés. J'ai honte pour mon système de santé.
Qui ont été faits ailleurs, qui ont été transportés. Puis tu sais, il y a quelque chose aussi qui parle beaucoup dans cet article-là, c'est que il y a personne qui se dévoile. Tout le monde demeure anonyme par peur de représailles. Alors là, on sent quand même là qu'il y a de la rigidité, tu sais, de la crainte. Et ça, déjà dans un milieu, je trouve ça absolument malsain. Puis s'il y a de quoi qui devrait être dénoncé ouvertement, c'est bien la nourriture. Donc on sent que les gens, puis c'est correct que les gens le fassent, mais que ce désir de rester anonyme à ce point-là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et
mais c'est qu'il y a l'omerta encore. Ça veut dire qu'il y a encore une omerta dans le système de santé. Puis on sait qu'il y a une omerta à toutes sortes de niveaux pour ne pas... où tu n'as pas le droit justement de dénoncer des conditions de travail, des conditions de soins. Mais là, c'est rendu qu'il y a une omerta même sur ce qui se passe dans ton assiette. C'est pas normal.
Et puis en plus, ils disent que, tu sais, les résidents, tu sais, c'est des gens de l'interne là, qui disent ça, là, c'est pas des candidatons, ils reçoivent pas nécessairement le plateau qui est adapté pour leurs besoins. Et ça, c'est grave, tu sais, je veux dire, tu peux penser, il y en a qui peuvent pas manger si c'est pas un peu plus mou, il y en a aussi qui ont des contraintes, des allergies, des intolérances, des maladies qui font en sorte que des aliments qui sont proscrits. Alors, tu sais, est-ce que c'était vraiment une bonne idée de décentraliser? Tu sais, il y a quelqu'un qui disait avant, on faisait la nourriture dans la cuisine ici, on
ben
allait
oui.
livrer ça sur l'étage. Mais là, écoute, ça arrive d'ailleurs. Et en plus, ils n'ont même pas le temps de faire la vaisselle le soir. La vaisselle sale traîne, on voit des images. Puis on dirait que ça fait comme un an et demi là, qu'on essaie, il me semble qu'on fait des efforts pour que les CHSLD soient des milieux de vie viables où on n'oublie pas que c'est des humains là, qui sont là, parce que même là, si c'était pour des animaux, on s'insurgerait aussi aujourd'hui. Et là, c'est pour nos personnes qui sont dans les CHSLD au Québec. Et ça, écoute, c'est douloureux, je trouve,
oui.
d'apprendre.
Ça fait mal. Ça fait
de
mal.
Voir.
Oui, puis tu sais, récemment, mon chum Richard disait on se préoccupe plus du sort des chevreuils à Longueuil que du sort des vieux en CHSLD. Est-ce qu'on devrait mettre les vieux dans des chenilles pour que la population commence à s'y intéresser? Je trouvais que sa comparaison était peut-être un peu exagérée, mais quand je regarde ce matin cette affaire-là sur la nourriture, je me dis, ben Richard, il y a raison. On a plus de considération pour la façon dont les animaux sont traités que écoute, je donnerais pas ça à manger à un animal, ces affaires-là.
Pas en tout. Puis, tu sais, ceux-là qui cuisinent, est-ce qu'ils ont des compétences reconnues pour cuisiner pour des gens, là? Tu sais, je veux dire, quand tu cuisines pour un groupe de personnes, pour des résidents, c'est pas vrai là que tu t'en vas là comme ça. Tu sais, c'est un art là, la cuisine, puis de cuisiner pour des grands groupes comme ça, ça prend une façon de faire. Alors moi, je me demande, puis tu sais, les gens qui travaillent dans les résidences, dans les CHSLD, ils disent oui, mais on a bien de la misère à communiquer avec eux. Ils parlent pas français, souvent pas vraiment l'anglais non plus.
Et alors, ça, t'as dû accrocher là-dessus toi aussi.
Oui.
Écoute, il y a tellement, puis après, c'est plus juste un problème en CHSLD. On s'entend que c'est un problème dans la société québécoise au complet. Il y a vraiment une pénurie de main-d'œuvre. Mais que la pénurie de main-d'œuvre fasse en sorte qu'il y a des gens qui sont envoyés par des agences de placement qui ne parlent pas français et qui parlent à peine l'anglais, tu dis, hey, attends deux secondes, là, que vous parliez pas le français, peut-être ça fait pas longtemps que vous êtes arrivé, mais vous parlez même pas anglais. On fait comment comme pour communiquer avec vous? Puis comment ça se fait que vous vivez au Canada? Comment ça se fait qu'on vous a laissé rentrer alors que vous parlez aucune des deux langues officielles. C'est là qu'on est rendu, là.
Puis on peut remettre en doute aussi les compétences quand on voit la bouffe. Puis est-ce que c'est normal que la bouffe soit faite autant de jours d'avance? Ça se peut congeler, décongeler, c'est possible là, dans la vie. T'sais, on fait ça aussi dans les maisons, là. Mais là, parce que pour congeler, il y a une façon de congeler puis il y a une façon de décongeler.
Ben oui.
Et là, ce qu'on voit, entre autres, dans le journal, c'est que ça a la sauce, c'est de l'eau, parce que quand ça a décongelé, c'est de l'eau, ça s'est liquéfié, là. Et là, c'est comme un tas de merde qui traîne dans de l'eau. C'est ça qu'on voit, là. C'est épouvantable, là. Mais ça, c'est une vraie assiette qui a été servie à un humain, là, qui est quelqu'un de la famille de quelqu'un d'autre, là, tu sais, est-ce qu'on doit aller porter de la bouffe en CHSLD? Est-ce que ça appartient tout à coup aux amis, à la famille, aux enfants? Est-ce que c'est ça le pacte social qu'on a en CHSLD? Apporte ton lunch. Tu sais, j'ai de la misère à comprendre parce qu'on n'arrête pas de nous dire « Ah non, mais là, tout va changer. » Mais là, non, la bouffe, là, c'est la base. Là. Et là,
oui.
Ça n'a pas l'air à changer.
Puis, je sais pas si t'es comme moi, mais tu sais, les fameuses maisons des aînés, là, qu'on va avoir bientôt, quelle considération on va donner à la nourriture? Parce que j'espère que on va avoir réfléchi à la chose suivante, Marie-Claude. Une des façons de soigner quelqu'un, une des façons de prendre soin de quelqu'un, c'est l'alimentation.
Ben,
je veux dire, ça fait pas juste du bien au moral de bien manger, c'est que c'est comme ça que, tu sais, je veux dire, est-ce qu'on s'est assuré qu'il y a tous les nutriments? Est-ce qu'on s'est assuré que les légumes sont frais, qu'il y a des vitamines, qu'il y a un équilibre? Tu sais, est-ce que tout ça va être pris en compte à la maison dans les maisons des aînés?
Et on espère bien que les maisons des aînés auront leur propre cuisine.
Voilà.
Ça ne sera pas centralisé. Auront leur propre cuisine adaptée aux besoins, des gens qui habitent là, mais aussi avec l'équipement, tu sais, qui 2022 ou 2023, je ne sais pas en quelle année ça va être fonctionnel, un équipement fonctionnel où on peut faire les repas-là puis les monter aux étages, là. Parce que là, je veux dire... combien ils économisent, là? T'sais, c'est quoi le coût en santé? Je veux dire, si tu nourris pas ton monde correctement, qu'est-ce qui arrive de l'autre côté? Alors, moi, je pense que c'est très révélateur, ce qu'on voit. Puis le fait que les gens demeurent anonymes, je trouve que ça rend ça encore plus dramatique.
Ça en dit long. Tu as tout à fait raison. Je suis allée vérifier vite. Les premières maisons des aînés seront prêtes normalement en 2022. Mais bon, c'est une des promesses phares de la CAQ. On va voir si ça fonctionne. Écoute, Marie-Claude, il y a un deuxième sujet beaucoup plus léger. Hein, je veux prévenir tout le monde, c'est beaucoup plus léger. Mais écoute, à l'approche des fêtes, on avait envie de rigoler un petit peu. Alors, un petit indice musical pour nous indiquer de quoi on parle pour notre deuxième sujet.
Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel.
Alors, j'avais envie de débattre avec toi. En fait, on l'avait promis aux auditeurs la semaine dernière, parce que toi, tu me disais à quel point t'aimais Noël. Moi, je te disais à quel point j'aguissais Noël. Fait qu'on s'est dit qu'on allait faire un débat. Alors, je te laisse commencer, Marie-Claude. Essaye de me convaincre pourquoi c'est le fun Noël.
D'abord, le Noël, Sophie, ça part de l'enfance. Pour moi, mes souvenirs du temps des fêtes, c'est quand j'étais jeune, quand on allait, parce que moi, ma famille, ma mère est en Gaspésie, la famille de mon père est au Témiscamingue. Si on regarde sur une carte, là, c'est très, très loin.
Oui.
Donc, on allait habituellement passer Noël en Gaspésie, jour de l'an au Témiscamingue, dans le gros station de mon père. La voiture familiale avec mon frère. C'est déjà ça. ça pour nous, mon frère et moi, parce que, tu sais, il y a les yeux d'enfant, puis il y a les yeux d'adulte, je trouve, quand on parle de Noël. Là, je parle à l'époque avec mes yeux d'enfant, d'aller voir mes cousins, cousines que je voyais pratiquement pas pendant l'année, autant en Gaspésie que du côté de mon père au Témiscamingue. C'était déjà une excitation incroyable. Et du côté de ma mère, c'est déjà festif. Là, mon grand-père, moi, sa fête, c'était le 24 décembre. Donc, on louait une salle et là, toute la famille se réunissait. Tout le monde amenait des plats. Tu sais, les potlucks, là.
Oui.
Ça fait longtemps que ça existe, ça, là. Et mon grand-père avait son petit flasque de gin dans sa poche. Mm-hmm. Et il y avait même un orchestre. Et ma famille, moi, jouait de la musique aussi. Et je voyais mes tantes, là, toutes belles. Tu sais, je voyais comme, pour moi, là, c'était un moment de réjouissance, de bonheur. Et on allait manger chez un, chez l'autre. Et tu sais, la fameuse image de se coucher dans les manteaux de fourrure.
Oui!
Parce que Dieu faisait trop mal à
les bottes dans la baignoire.
Oui, oui. Moi, là, ça, là, pour moi, c'est comme un point d'ancrage dans ma vie. C'est des souvenirs incroyables. C'est des souvenirs qui ont comme nourri ma capacité d'émerveillement, ces rencontres-là, chanter, danser. Évidemment, ben le temps passe. À l'adolescence, on dirait que ça perd un peu son sens. Et moi, c'est vraiment revenu quand j'ai eu, entre autres, Angela. Là, il y avait comme un besoin d'un retour au rituel que j'avais un peu. Le rituel, c'était beaucoup entre amis. Et là, tout à coup, parce qu'il y a eu comme des phases dans ces rituels-là, et tout à coup, le rituel, c'était la petite famille dans la grande famille, à travers les amis, parce que pour moi, les amis, la famille, ça se complète absolument bien. Et pour moi, tu sais, les rituels, c'est quelque chose qui évolue, c'est quelque chose qu'on peut changer, parce qu'il faut, tu sais, des fois, le temps des fêtes, on est comme pogné, va à gauche, va à droite, puis c'est que des obligations, puis il faut casser ce moule-là, parce que pour des gens, quand on voit Noël, c'est, oh mon Dieu, ça s'en vient, et tu sais, et il faut essayer de casser ça, parce que Noël, l'avantage du temps des fêtes, Sophie,
oui.
Je trouve que c'est seul moment dans l'année où on est presque tous en vacances. Tu sais, l'été, on n'a pas des vacances en même temps, mais dans le
c'est vrai,
fêtes,
c'est vrai.
Tu vas chez un, tu vas chez l'autre. Fait que moi, c'est tout ça que j'aime. C'est un arrêt, mais c'est pas des vacances.
D'accord. Alors, bon. Alors, moi, je déteste Noël depuis plusieurs années. Je ne fête pas Noël. Bon, je fais un petit sapin, évidemment, pour mon fils parce que j'ai pas le choix, parce que c'est ce qu'il faut faire. Il y a plusieurs choses qui m'énervent de Noël. Je trouve que c'est le moment de l'année où les gens qui sont seuls se sentent encore plus seuls. Les gens qui sont stressés sont encore plus stressés. Les gens qui ont une famille dysfonctionnelle se rappellent tout d'un coup à quel point leur famille est dysfonctionnelle. Et moi, quand je regarde aller les gens, parce que moi, je ne fête pas Noël, mais quand je regarde aller les gens, je ne comprends pas à quel point les gens se mettent une pression, à quel point c'est il faut que j'aie la table parfaite, le petit repas qui va faire plaisir à tout le monde. Les gens se stressent des jours et des jours à l'avance. Quand le party arrive, ils sont là, puis ils font la baboune, puis ils ont juste hâte que la famille parte. Je trouve qu'on a perdu complètement l'idée de Noël. Puis, je ne comprends pas ce qu'on fête à Noël. Manifestement, au Québec, ce n'est plus une fête religieuse. Il y a plein de gens qui vont, évidemment, des fois à la messe de minuit, mais c'est la seule fois dans l'année où ils vont à la messe. Donc, il y a comme, je trouve, une sorte d'hypocrisie de ce côté-là. Et puis, cette avalanche de cadeaux, tu sais, vraiment, le ciel s'en trouve. Puis là, on inonde les enfants de cadeaux dont ils ne savent plus quoi faire au bout de deux heures. Je trouve qu'il y a une espèce de frénésie, d'angoisse, d'anxiété qui entoure Noël.
Si c'est... Oui. Pour plusieurs, il y a de l'anxiété à Noël, effectivement.
Je trouve qu'on devrait... En fait, là où on se rejoint, toi et moi, c'est que si ce n'était que du plaisir et que si on c'est que c'est le côté obligation à Noël. On est obligé d'aller voir ta belle famille. On est obligé d'aller voir le mononcle qu'on n'aime pas. Si on se disait, à Noël, dans le temps des fêtes, on fait juste les choses qu'on a envie de faire et on ne voit que les gens qu'on a envie de voir et on ne fait que les cadeaux qu'on a envie de faire. Déjà, pour moi, 90% de ce que jaillit de Noël disparaîtrait. Mais écoute... Moi, ça me donne de l'urticaire, même juste les chansons de Noël, je suis pas capable.
Ah non, les chansons de Noël, c'est... Hey, la chanson de Noël avec une petite neige qui tombe, je veux dire, qu'est-ce que tu veux de plus? C'est extraordinaire. Mais oui, c'est sûr que quand il y a des cassures, des brisures, on dirait que ça va ouvrir ça. Tu sais, c'est comme si des fois, dans le temps des fêtes, on gratte des bobos qu'on essaie de camoufler toute l'année. Je pense que quand il y a des choses de pas réglées, parce que des fois, il y a de l'alcool, il y a des réunions de famille, il y a des mots qui s'échappent, il y a quelque chose. Mais moi, j'ai envie de te dire que ce Noël-là, là, qu'on va fêter, là, il reste qu'on vient d'avoir tellement des périodes difficiles, je pense qu'il faut pas... Il ne faut pas s'ajouter des contraintes. Il faut oser dire non. Il faut oser se réinventer. Il faut oser revisiter les choses parce que effectivement, si on fait que ça par obligation, parce qu'avant, il y avait des grosses familles. Tu sais, dans la famille de mes parents, là, c'était 11 enfants, 12 enfants. Fait qu'on peut imaginer. Fait que là, va chez un, va chez l'autre. Mais là, on est des petites familles. Tu sais, il faut arrêter de se donner des obligations, mais il faut essayer d'endosser cette période-là.
Voilà. Donc, faisons-le dans le plaisir. Dans le plaisir.
Ben, oui, essaie, je te donne un défi d'avoir du plaisir et d'arrêter d'être un Grinch de Noël, d'être une fée marraine de Noël. Endosser ça pleinement, faire la bouffe qui te tente, avec la vaisselle qui te tente. Mais moi, je fais partie de ceux et celles qui travaillent très fort pour faire la plus belle table de Noël, mais c'est un plaisir.
Bon, voilà. Bon, ben alors, parfait. Ça, j'adore ça. Si c'est un plaisir, c'est parfait. Mais moi, tout ce que j'entends des gens qui fêtent Noël, c'est « Oh mon Dieu, c'est donc bien stressant! » Mais c'est un stress que vous vous imposez. Si c'est pas un plaisir, ne le faites pas. C'est le message, la conclusion de notre débat de Noël. Écoute, j'aime ça quand on n'est pas d'accord, Marie-Claude, j'adore ça.
Mais ma grille préférée, pas de problème.
Ben, parfait. Ben, t'es ma fée des étoiles préférée, alors. Merci, Mère Noël. On se retrouve demain.
Parfait. Merci, Sophie. À demain. Bye-bye.